Alright. Now ladies and gentlemen, this is Rockers.
Roger Fringant.
Sans oublier.
Et Tom qui en prend plein les oreilles parce que le casque est mal réglé.
Bah oui, mais c'est ça, c'est des choses qui se prévoient avant. Ça, ouais, on n'a pas supporté votre inexpérience. Ouais, bah,
justement.
Au bout de quand même pas loin de 17 ans d'émission, on en a la preuve avec notre invité ce soir.
Sans oublier non plus,
Grovitch à la lumière.
Voilà.
Grovitch à la lumière.
Il est très beau à la lumière.
Ouais, voilà. Et bientôt au son, dès que Tom aura entamé, merci mon bon Grovitch, dès que Tom aura entamé son repas à base de cassoulet du Gers, hein, c'est bien ça ce soir.
Ah,
hein.
Vous êtes pas très loin ce soir, c'est du pâté de canard.
Ouais, eh bien voilà.
On a le directeur d'antenne qui est dans les locaux, je sais pas vous l'avez aperçu.
Pour ça,
quoi.
C'est pour ça que je le dis.
Évitez de manger devant lui, ça fait que vous avez pris deux claques, je me souviens, derrière la tête, ouais. Assez
mérité
sévère.
Et mérité.
Il y a quelques années, ça devrait vous servir normalement d'expérience. Bref, vous écoutez les Grignou, le mercredi de 20h à 22h. Le dimanche, si vous êtes matinal, c'est quelle heure déjà là,
Si vous êtes matinal, vous êtes bien plus matinal que vous ne laissez penser, puisque je vous ai vu assez tôt dimanche après-midi. Bref, à partir de 15h jusqu'à 17h en général, c'est rediffusé.
Et sinon, comment on fait si on n'est pas là? Eh ben, on peut écouter.
Comme d'hab.
Bah, comment?
Internet, on clique, les Grignou.
C'est chiant, hein, de toujours répéter ça. Je sais pas pourquoi Jean-Loup aime ça.
Les Grignou avec un X ou avec un S?
Avec rien du tout.
Voilà. Et pourquoi rien du tout?
Bah, parce que c'est un nom propre.
Bah non, on s'est jamais réussi à se décider s'il fallait mettre un X ou un S. On s'est dit, on met rien du tout.
Voilà. Non, je préfère la version nom propre.
Nom propre. Tu as bien aimé le X.
Et marque déposée.
X, c'est vrai que ça faisait bien.
Hein, le Grignou avec un X.
Marque déposée, d'ailleurs, je viens de le préciser.
Allez, petit morceau, le temps de présenter l'émission, qu'on se mette en place, etc., etc., de la programmation au petit.
À Grovitch. Ouais, bah du coup c'est le groupe j'arrive jamais à l'anglais.
Oui,
bah 1969 dire... Club.
Hein the 1969 voilà, Club, voilà. Ouais.
Bravo.
Ou les 69 Club.
Mais c'est très bien.
Et oui, je disais à notre invité qu'on allait un petit peu énervé comme ça. Bah oui, ça fait 15 jours de pause, plus ou moins forcée.
Hein. Non, non, moi je suis absolument pas énervé.
Bah nous on fait les 35 heures. Enfin, peut-être qu'on nous obligera peut-être à faire les émissions pendant les vacances. Qui sait quelle va être la couleur, je dirais, la prochaine présidence. Donc je pense qu'on commence à sortir des fiches secrètes. Donc je pense que vous avez sûrement des choses à dire.
Un
bref,
peu.
Ce soir, nous recevons
Françoise, dont je n'ai pas eu le temps de renoter le nom, j'en suis bien confus.
Donc moi, je m'appelle Françoise Bagnot.
Voilà. Voilà. Et vous êtes là ce soir parce que on avait repéré, alors je crois que c'est dans le Rennais ou dans West France, un article qui concernait votre association, donc l'histoire du féminisme à Rennes. Et je trouvais ça intéressant parce que bah déjà, on n'a pas forcément énormément l'occasion d'en parler chez les Grignoux, quoique on avait quand même parlé de ça il y a quelque temps, l'année dernière, je crois.
Enfin, j'allais continuer.
Et après, il se trouve que bientôt, il y a ce qu'on appelle la journée de la femme.
Non, on n'appelle pas ça la journée de la femme.
Vous appelez ça comment ?
La journée internationale des droits des femmes.
Voilà.
Pas pareil.
Et donc, du coup, on reviendra justement sur cette journée, etc., ses ambitions, ce que vous allez faire ou ce que vous avez prévu de faire, en tout cas, autour de cet événement. Et on parlera naturellement du travail que vous menez. J'ai cru penser, moi...
Comprendre, je dirais, que
c'était un peu un travail d'historienne ou d'historien que vous menez à travers vos travaux sur l'histoire du féminisme à Rennes.
Voilà, c'est ça l'idée. C'est en fait une association qui a été créée en 2012 par deux personnes, Lydie Poré et Patricia Godard, qui ont mené une recherche sur les années féministes à Rennes dans les années 70. L'idée étant de restituer l'histoire, et pas seulement l'histoire parisienne, mais aussi l'histoire, par exemple, de ce qui s'est passé dans une ville comme Rennes.
Voilà, c'est bien, on en saura un petit peu plus en deuxième partie d'émission. Et on va peut-être casser quelques préjugés, peut-être, parce que c'est vrai que le terme féministe, moi personnellement, dans ma tête, c'est connoté, mais je vous dirais...
Connoté positivement, bien sûr.
Bon, on en parlera dans quelques minutes, et je ne dois pas être le seul, je pense.
Si, vous êtes tout seul à penser.
Je suis un modèle tout à fait standard, voilà, je vais voter comme il faut, tiens, on va en parler, je pense, après le prochain liste de, je sais plus, l'approbation à Jean-Loup. Ouais. J'allais faire dans 2015, le temps que mon tour arrive, et apparemment, c'est mon tour.
Alors, je vais vous le dire, c'est Holly Too avec Undercover Girls.
Il me semble qu'on l'a passé, non, la semaine précédente? Je sais pas.
Remettez.
Toujours le bordel.
Est-ce que vous avez mis une croix?
Je vous mets un autre morceau sinon.
Vous voulez. Est-ce que vous avez mis une croix?
C'est pitoyable.
Moi, j'étais pas là, donc.
Absolument pas prête.
Est-ce que Grovitch a mis une croix?
C'est parti!
Drug your mind. They drug your mind. If they come and treat me, bite me in the neck. other girls.
C'est maintenant devenu une habitude, les Grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris, c'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un Grignoux.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me laisses parler,
Ah, il est en train de me virer par la violence, oh, c'est ça.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Rubrique à celui qui a plein de papiers devant lui.
Bah oui, évidemment, ça fait plus sérieux. Là.
Bah oui.
Oui, mais moi, je protège.
Il y a des gens qui travaillent et des gens, on se demande si ils s'intéressent un petit peu à ce qui se passe
je
autour de vous. D'ailleurs, à tel point que
la
quand
planète.
Vous êtes arrivé,
je lis, je retiens, j'ai un cerveau.
Quand vous êtes arrivé chez moi pour le briefing, j'ai commencé à vous engueuler en vous traitant de François Fillon. Oui, c'est pas la peine. Tu avais promis de démissionner. Et à tel point, vous semblez déconnecté de l'information que vous avez cru que je vous engueulais sur votre horaire, alors que je vous faisais référence au dernier rebondissement, c'est bien simple. J'ai bon collecter des tas d'archives, noter des tas de trucs, imprimer des machins, mais avec Fillon, c'est la fête foraine tous les jours, c'est la foire du trône, tous les jours des révélations, tous les jours, il se passe des trucs nouveaux, je n'arrive plus à suivre, mon bon Jean-Loup.
Je sais, ce matin, en me levant tôt, première partie du suspense, il ne viendra pas au salon de l'agriculture.
Il avait peut-être une vilaine
Je sais pas, bizarre, pourtant les agriculteurs, on peut pas dire qu'ils votent forcément à gauche, c'était le client idéal. Et en revenant du travail, j'ai su pourquoi, en fait. Il était convoqué, c'est ça? Il était pris ce jour-là?
C'est-à-dire qu'il va être convoqué et vraisemblablement, il est convoqué pour en vue d'une mise en examen. Or, il se trouve que, comme tout le monde s'en rappelle, le 26 janvier, il avait déclaré « Si je suis mis en examen, je me retirerai ». Et voilà que maintenant, il nous dit « Oui, mais non, ce n'est pas à la justice de décider, ce n'est pas à la justice de, quelque part, de comploter ». Et c'est là où on en arrive dans ce discours de ce midi, ça va tellement vite, un discours que n'aurait pas renié Marine Le Pen, d'ailleurs elle tenait sensiblement le même à Nantes.
Quelle même casserole,
elle tenait sensiblement le même discours à Nantes lors de son meeting, comme quoi, eh ben, il semblerait quand même que la justice soit le bras armé des socialo-gauchistes, et c'est pour ça qu'ils auraient quand même plein de casseroles. Ben non, François, ben non, Marine, vous payez parce que vous avez les mains pleines de confiture. Dommage pour toi, François, il se trouve que pour les gens qui ont l'air d'être destinés à voter Front National, elle peut avoir le nombre de casseroles au cul qu'on veut, ça glisse sur elle comme l'eau sur la plume d'un canard, et je ne vois pas comment les gens pourraient changer d'opinion. Il suffisait de voir comment elle a été accueillie au salon de l'agriculture, c'était Chirac de la belle époque, avec tous les gens qui prenaient des selfies avec Marine, et que Marine connaissait le nom des bestioles primées par le nom et par leur petit coin de séjour, etc. Bref, elle est, on envisage en ce moment, on est à peu près à 30% de la population des agriculteurs, on cite officiellement 25%, mais il y a toujours au moins 5% de gens qui ne le disent pas. On arrive au moins à 30% des agriculteurs qui vont voter FN. On arrive à des taux délirants. Marine, elle n'est pas à 25, mon petit pépère, elle est à 30. Et du coup, alors c'est vrai qu'on pourrait regretter, comme le dit Mélenchon, il dit, alors Mélenchon avec pas mal d'ironie, la Mélenchon, il fait, c'est quand même dommage que la droite n'ait pas un candidat présentable, j'ai même pitié pour eux. C'est un petit peu, vous savez, le coup de pied de l'âne. Pouf. Et il les jette définitivement dans les poubelles de l'histoire. Et on peut le regretter pour la droite, et on peut le regretter pour le départ, un débat démocratique, comme ils disent dans les journaux. Il n'empêche que s'ils ont Fillon, eh ben, ils l'ont aussi mérité, quoi. Ils l'ont élu à la primaire, je veux dire, bah, à ce moment-là, ils ont qu'à de le virer et puis foutre celui qui est arrivé deuxième. Deuxième, en plus, qui avait bénéficié de pas mal de voix de gens de gauche, d'ailleurs. La seule mauvaise nouvelle pour Macron, c'est qu'effectivement, Fillon se désiste en faveur de Juppé.
Voilà. Et puis, fameuse union de la gauche aussi, le Hamon, ah ouais. Mélenchon, moi, honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont exactement le même discours à quelques nuances près.
François,
pas sûr que notre invité soit d'accord.
François, vous en pensez quoi, vous?
C'est quoi, histoire d'ego ou vraiment un discours qui
comment vous
qui
interprétez
veut pas cohabiter?
Ça, cette impossibilité, justement, on peut le regretter parce que quand on cumule la Mélenche et le Hamon,
on arrive à 12%.
25. Non, vous rigolez, on arrive à 25.
Ouais, bah, enfin, elle fait combien, Marine? 30.
Ouais, mais c'est pas grave. 25, c'est ce qu'aurait pu. 25, c'est ce que prétend avoir Macron.
Alors là, moi, je vais m'exprimer en tant que
citoyenne, et puis voilà.
Voilà, c'est ça. Je pense pas que ce soit seulement une histoire d'ego, même si ça joue. Je pense que quand on se présente à la présidence de la République, faut avoir un certain ego quand même. Donc voilà. Je pense qu'il y a des différences dans leur programme et dans leur manière de voir la vie démocratique. Je crois aussi que Monsieur Hamon, même si il représente ce qu'on pourrait appeler l'aile gauche du PS, reste quand même au PS et que ce parti socialiste a montré que ces dernières années que le socialisme n'est plus tout à fait ce qu'il était. Il ne répond pas forcément aux attentes, voilà.
Même si Hamon incarne quand même une nouvelle vision du socialisme quand même. Et c'est quand même assez symptomatique de voir que les gens qui ont été votés aux primaires de la gauche, eh ben, s'ils ont voté Hamon, c'est aussi parce que, bah, ils avaient envie que c'est pas, le PS pour lequel ils avaient voté en 2012 n'était pas celui à lequel ils s'attendaient.
Oui, oui, bien sûr. Mais Monsieur Hamon n'a pas clairement dit qu'il rompait avec un certain nombre de manières de faire ou de promesses non tenues du Parti Socialiste. Donc, tant qu'il n'aura pas fait ça, on ne voit pas comment les programmes de l'un et de l'autre peuvent se rejoindre. Il y a des différences majeures.
En attendant, sortie du diable Vauvert, celui qu'on n'attendait pas,
ah ouais.
Macron.
Alors là,
qui aurait parié un centime sur Macron il y a six mois? Personne.
Quasiment un candidat de la droite.
C'est un peu comme...
Mais ça ne dit pas.
C'est pas ça du tout.
On n'a pas dit que c'était un mec de gauche.
Qui aurait cru il y a un an que Donald Trump aurait été élu aux États-Unis? Personne. Et c'est vrai que Macron qui était là, le petit jeune, il se fait les dents.
Tout le monde rigolait.
Voilà.
Il était sorti, il avait été à Rouen, voir Jeanne d'Arc, tout le monde s'était fendu la gueule, moi le premier. Et puis le voilà en tête, bientôt en tête des partis démocratiques, entre guillemets, ou républicains, comme ils disent, face à Marine Le Pen. Ça me laisse un peu sans voix. Moi, je pensais à un second tour Juppé-Le Pen. Et puis, on a vu le Fillon. Le Fillon, c'était pas prévu non plus. Pouf.
C'est bizarre. Moi, ça m'inquiète.
C'est rigolo, cette élection.
La situation pourrait, pourrait prêter à rire. Car on est en période de crise, etc. Et j'ai l'impression que ce qui nous attend, c'est une France qui va être complètement ingouvernable. On imagine Marine Le Pen, une femme, cas extrême, qui passe. Elle aura jamais la majorité à l'Assemblée nationale.
Macron,
pareil, il aura des soutiens qui vont varier un peu comme sous la 4ème République, selon
c'est
certain nombre de questions.
Macron qui a des soucis à se faire à ce niveau-là.
Fillon, pareil, est-ce qu'il va avoir une réelle majorité au sein de l'Assemblée nationale? On va se pointer dans une espèce de cohabitation bâtarde, et en période de crise, il faut réformer. On n'est pas prêt de réformer, je pense pas.
Le mot crise, moi je l'entends depuis que je sais, j'écoute la radio, que je vois la télé, on me dit je suis en crise.
Or, depuis 73.
Mais quand on y réfléchit bien, on n'est pas forcément, il y a déjà des gens qui sont pas en crise, suffit de voir les yachts qui sont dans baie de Nice, tout le monde n'est pas en crise. Si crise il y a, elle n'est pas pour tout le monde, on le sait bien. On sait aussi que les richesses mondiales sont de moins en moins bien partagées. Il y a quand même moi ce qui me navre un peu, et c'est là où je rejoins le père Jean-Loup, c'est que peut-être, alors on est peut-être deux vieux babas indécrotables, mais on se dit quand même que une alliance le problème de la gauche, c'est qu'on n'arrive jamais à s'allier, parce que si on fait encore une fois le total des voix de Hamon et de Mélenchon, on arrive quand même à près de 25%. Ça veut dire que finalement, la gauche, une certaine forme de gauche du gouvernement, n'est pas à la rue quand même.
Il y a Mitterrand qui avait réussi cet exploit-là pendant un moment avec les communistes. Mais c'était Mitterrand, si c'est pas forcément la...
À cette époque-là, c'était le PS qui était en train de se recomposer aussi. C'était le PS qui était en train de se recomposer. C'est pas seulement l'homme, c'était aussi un programme. Ils étaient portés par une vague aussi progressiste dans ces années-là. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est plutôt les forces un peu réactionnaires qui l'emportent. Elles se traduisent dans tous les domaines de la société. Les mouvements contre le droit à l'IVG, les mouvements contre le mariage gay. Enfin, il y a beaucoup de choses qui viennent montrer que c'est plutôt des forces, disons, de droite réactionnaire qui sont à l'œuvre.
Et qui
n'était pas le cas dans les années mitterrandiennes.
Et qui votent en plus, eux. C'est ça le problème. Enfin, c'est le problème, c'est normal, et c'est leur droit, quoi, bien sûr, évidemment. Mais eux, ils votent, contrairement à certains, les jeunes, enfin bref, ou une certaine...
Et qui manipulent ces espèces de discours dégueulasses, encore une fois, le discours de Fillon de ce jour, où on le voit dénoncer la justice. Alors c'est quand même assez amusant. Moi, j'aime bien noter, enregistrer, parce que c'est toujours assez cruel. J'avais trouvé un article la semaine dernière, on faisait pas d'émission la semaine dernière, hein, donc on n'a pas parlé, sauf que la semaine dernière, il déclarait « Il est donc temps d'en finir avec un système qui ne fonctionne pas. C'est pourquoi je propose de fixer désormais la majorité pénale à 16 ans », a déclaré François Fillon mercredi. C'était mercredi dernier. Comment un bonhomme qui a quand même le groin plein de confiture peut comment oser demander à ce que la majorité pénale, ça remonte, alors ça veut dire péter une ordonnance de 1945 sur la délinquance des mineurs, hein. Et bien souvent la droite s'est toujours un peu cassé les dents sur cette ordonnance qui protège quand même un petit peu comment les gens d'un certain âge, il faut quand même pas déconner non plus. Or comment ce monsieur, comment les mains pleines de confiture parvient à dire ça, surtout quand le même dit ah oui mais la justice je ne la reconnais pas, ou alors je veux une pause, vous savez, une pause. Alors c'est, je suis pas macroniste, mais ça fait quand même, c'est assez rigolo d'entendre Macron qui dit, bah voilà, ça voudrait dire que pour les délinquants de base et citoyens de base, la justice devra s'appliquer dura lex sed lex, mais pour les politiciens, pause, vous savez, un peu chat. Je suis monté sur le tabouret, il n'y a plus le droit de me poursuivre. Comment ces gens-là peuvent aussi prétendre que ça va marcher ?
Parce qu'il paraît que c'est une tradition.
Ouais, mais c'est eux qui flinguent le système, c'est eux qui donnent aussi envie aux désespérés de voter Marine Le Pen.
Ce que je veux, ça c'est le. Ce que je veux dire, en fait, j'ai l'impression que la justice est quand même socialo-communiste quelque part. Quels sont les hommes politiques qui ont été poursuivis soit avant et surtout après leur mandat ? Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, ce sont des gens de droite quand même. Est-ce que Mitterrand a été poursuivi ?
Il n'a pas eu le temps, déjà il est mort. Mais pareil, Fillon déclarait le 7 octobre, nos concitoyens considèrent que souvent la justice est laxiste. Et ce même bonhomme, 3 ou 4 mois plus tard, dit oui, justice qui s'acharne, je suis un pauvre malheureux, et la présomption des noms. L'impunité zéro doit être la règle, disait-il à la même époque. Attends. Faut être sérieux. Et après, on s'étonne que les gens votent Front National. Pareil, Laurent Wauquiez, la droite pure et dure, qui vient de se faire épingler parce qu'en tant que président de la région Auvergne. Alors, parce que, en fait, il cumule les mandats, puis ça a des inconvénients, parce que Laurent Wauquiez multiplie les casquettes. Il est premier vice-président du Parti des Républicains. Il est aussi député de Haute-Loire. Et il est également président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est dur à dire. Auvergne-Rhône-Alpes, dont le conseil régional se trouve à Lyon. Il effectue donc plein de trajets. Il demande donc une augmentation du plafond légal parce que, comme le dit l'opposition, faudrait quand même pas qu'il dorme dans sa bagnole. Alors, il y a peut-être aussi un moment où ça fissure. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça suffit, quoi. Et tous ces exemples pourris, les uns après les autres, comment voulez-vous, par exemple, que des enseignants montrent l'exemple, disent, on nous dit à chaque fois qu'il y a un attentat, à chaque fois qu'il y a un truc pourri, on dit c'est la faute des profs d'histoire, on va leur faire faire de l'instruction civique. Moi, je veux bien qu'on fasse faire de l'instruction civique au môme, mais à ce moment-là, que ceux qui nous ordonnent de faire l'instruction civique arrêtent de se gaver de confiture et arrêtent de montrer leur cul. Ça se voit et ça pue.
Bah, j'ai un pote, un jeune de 18-20 ans qui vote pour la première fois au présidentiel. Je sais pas. Après, c'est le plus démagogue. Ou la plus démagogue qui va gagner. Allez, un petit disque, après, parce que l'heure tourne, on continue notre conversation.
On va l'espondre.
Thank you.
Voilà, allez, tiens, et on en finit avec les pourris, et puis comme ça, après, on en aura fini. Gilbert Collard du Front National, parce que c'est aussi hein, les pareils, les mêmes hein, qui ont quand même pas mal de casseroles au cul, et il en a tellement, d'ailleurs, que pour se protéger, l'intéressé a carrément déposé, en tant que député, une proposition de loi pour suspendre les poursuites à son encontre. Le texte, consultable sur le site de l'Assemblée, a été déposé le 20 février, mais n'a été repéré par le journal Contexte que le lundi 27 février. Elle est pas belle, la vie ? Et voilà.
Non mais j'ai l'impression que vous faites une petite déprime là. Ah, moi je serais à votre place, je prends un arrêt de maladie pour burn-out politique.
J'ai des nouvelles plus drôles parce que je pense toujours à nos invités et j'ai quand même trouvé une nouvelle qui m'a laissé un peu pantois.
Attention.
Puisque
alors une lapidation
détenteur d'une femme syrienne, détentrice, le détenteur ou la détentrice du record d'alcool de grammes d'alcool de litre par 100 est désormais tenu par une femme. Une originaire de Picardie qui détenait pas moins de 4,32 grammes d'alcool par litre de sang, un record dont se passerait bien, ajoutent les gendarmes, alors que la limite légale...
Ah mais c'était à Noël avec... c'était ma sœur.
attendez, un record français ou encore du monde?
Du monde, parce je sais pas comme vous y allez.
D'une petite nouvelle, c'était un peu plus que ça, c'était en Pologne ou en Russie, où une nana avait accouché et elle avait du style 4,90 grammes. Eh, petit gars, vous tapez quel est le record du monde d'alcoolémie dans le monde, voilà.
Pour les femmes.
Faut préciser. Ils s'emmerdent, je les ai en face là, depuis quelques semaines, ils s'emmerdent, quoi.
Une autre femme en colère aussi, c'est comment dirais-je, c'est une Allemande. Joueuse de tennis et lors de la rencontre, comment qu'il l'opposait, elle a perdu en plus. Elle a perdu contre une Américaine. Mais à l'issue du match, ils ont joué les deux hymnes et les ballots, comment de la Fédération de tennis des États-Unis ont diffusé l'hymne allemand dans son intégralité. Or, tous les premiers couplets sont violemment nationalistes et depuis 1945, ils n'ont plus le droit de les chanter.
Ah, ils avaient une vieille version en fait. Ah, vieux 45 tours.
Ouais, c'est comme si nous, la Marseillaise, abreuvons d'un sang impur, on chevintait tout ça, et puis on arrivait dans nos sillons.
Voilà.
Mais donc les boches, c'est un peu comme ça. Elle, par contre, elle l'a reconnue parce que on peut être joueuse de tennis et aussi connaître l'histoire de son pays. Et elle s'appelle Alisane Riske et elle a Andrea Petkovic, pardon. Et elle a perdu. Elle a déclaré :« C'est le summum de l'ignorance. Je ne me suis jamais senti autant bafoué et humilié de toute ma vie. A fortiori en Fed Cup. Je joue en Fed Cup depuis 13 ans et c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Ça mérite d'être clair. »
Ouais. La Marseillaise, ce n'est pas aussi vieux.
Cas,
ça,
elle est un peu meilleure que nos joueurs de football français. Il y a une dire, mais au moins elle connaît son hymne. Ce qui n'y paraît pas, d'ailleurs. Vous voulez dire quoi?
Je vais vous parler de la Marseillaise. C'est vieux. Il n'y a pas une quinzaine, une vingtaine d'années, justement, où il était question d'un sang impur, d'enlever ou de transformer. Hein, c'est ça, les paroles. Alors, ça n'a pas été fait parce qu'on ne touche pas à... mais tu dis pas de bêtises, Françoise.
Non, ça me dit quelque chose. Il y a quand même un certain nombre de personnes régulièrement qui s'insurgent sur la violence et puis sur ce que ça veut dire qu'un sang impur à Brève d'Ossillon, c'est quand même voilà, qu'est-ce que ça veut dire dans un pays multiculturel qui a comme tradition quoi qu'on en dise, voilà, liberté, égalité, fraternité, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine.
Ouais, c'est clair que...
Et surtout qu'il y a
c'est
d'autres
très difficile, c'est très guerrier quoi.
Il y a d'autres couplets dans la Marseillaise. Oui. Il suffirait d'inverser un couplet plus pacifiste
le refrain,
là. Ouais, mais on chanterait un couplet au moins, comme ça on gagnerait au moins la Coupe du Monde.
On pourrait changer les paroles.
On pourrait chanter quel couplet.
Et puis on pourrait dire aussi peut-être pas aux armes, en tout cas on pourrait placer citoyens et citoyennes. Parce qu'en fait, la moitié, quand même, de la population, ce sont quand même des femmes.
Ouais, bah, attendez, c'est amusant.
On enlève vos armes, on met citoyens, citoyennes.
Et vous voyez l'équipe de France.
Dans une exposition, j'ai vu la déclaration des droits de l'homme, mais traduite au féminin. Je sais pas
oui,
si
mais Olympe de Gouges a écrit une déclaration des droits des femmes.
Voilà. Mais là, c'est différent. C'est la déclaration des droits de l'homme, mais tout est féminisé.
Ah oui, d'accord.
Et ça, on en reparlera dans pas très longtemps.
Comment ça change tout à fait le point de vue.
Ouais.
Bon, un autre article, on a le temps. Ouais.
J'ai l'alcoolémie, là.
Oui, alors, record. Pologne ou Russie? Moi, je dirais un des deux.
Eh ben non, sud-africain.
Ouais,
16 grammes.
Non.
16 grammes.
Ah, c'est pas possible, ça t'est mort. Là,
mais non, mais en ça, France, c'est 9,75 grammes
ça,
par
ça, c'est un foie qu'ils ont trouvé dans le formol, là.
Je sais pas.
16 grammes, c'est pas... Cherchez-nous.
Les mecs, ils sont en coma éthylique hein, quand ils les arrêtent. Hein.
Non, 16 grammes, c'est pas possible.
C'est record du monde, record mondial. En France, c'est 9,75 le record du monde.
Pour un homme ?
Pour un homme.
En Picardie ?
Sans doute. Non, dans l'Ain.
C'est même dans pas
dans
la,
c'est pas là, tout ça.
Bon, bah, puisqu'on parle d'alcool, c'est on peut aussi parler d'alcool et de cannabis, puisqu'une enquête, alors c'est une enquête britannique qui est assez curieuse, puisqu'elle elle affirme que comme en fait, les élèves les plus intelligents seraient les plus enclins à consommer du cannabis et boire de l'alcool.
C'est-à-dire qu'ils dépriment.
Alors je sais pas.
Ils passent, mais... ils passent pour des bolos vis-à-vis des autres, parce qu'ils ont toujours 18 sur 20. Ouais. Ah, avec
ils
des
essayent
lunettes.
Peut-être de se mettre à niveau, allez savoir. En tout cas, ils disent que ces recherches ont établi que les élèves âgés entre 13 et 17 ans aux meilleurs résultats scolaires sont moins susceptibles de fumer des cigarettes que leurs condisciples moins brillants, mais ils sont plus à même à boire de l'alcool et de consommer du cannabis. Et cette tendance persiste fortement quand ces mêmes élèves, atteignent l'âge de 20 ans.
Ah bah peut-être le stress, ils se mettent
non, en fait, ça serait lié aux capacités intellectuelles qui seraient associées à une ouverture à de nouvelles expériences, genre j'ai envie de tout tester. Ainsi, ces élèves intelligents seraient plus enclins à se tourner vers le cannabis et l'alcool. Autre hypothèse plus sociologique, ces adolescents plus brillants rechercheraient le contact des élèves plus vieux et ainsi
en picolant
et en fumant avec des plus vieux, comme si vous voulez, ils sont plus matures et plus
Je comprends pourquoi Tom et Grovitch ils fument pas et boivent pas. Voilà, ils ont dû avoir une scolarité moyenne, je pense. Voilà. Que vous voulez dire, c'est un peu bon.
Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui a un fond mauvais.
Non, j'essaye de trouver l'explication pourquoi des blancs parfois, j'essaye de comprendre.
Allez, et puis une petite dernière nouvelle, être stagiaire et bien rémunéré, c'est pas impossible, mais faut aller aux États-Unis. Faut savoir qu'aux États-Unis, on peut être stagiaire et toucher des sous. Ainsi, en cherchant un petit peu sur Google, j'ai découvert que, par exemple, chez ExxonMobil, on pouvait gagner jusqu'à 6 400 € par mois. Chez Microsoft, 6 100 €. Chez LinkedIn, 6 290. Parmi ces 14 entreprises françaises, Schlumberger, spécialisée dans les services et équipements, offre $5 505 pardon.
Stagiaire.
Aux stagiaires.
Bah, de n'importe quel stagiaire, je suppose, ou alors des petits génies ou des petits geeks de l'informatique.
En fait, ce sont des stages très demandés. Naturellement, le taux d'acceptation est faible, autour de 5%. N'empêche que l'impossibilité de payer les stagiaires, chez nous, même les ingénieurs sont pas payés non plus.
Ah, on est d'accord, mais là, ils se payent des petits génies pour trois fois rien par rapport à ce que ça peut rapporter.
Chez nous, c'est rien.
Ils ont le droit à un ticket restaurant quand même, de temps en temps.
Chez nous, c'est 504 € mensuels.
Par contre, après, ils savent faire les photocopies super bien. Ouais. Et ils savent faire amener le café super bien sans l'enverser. Voilà. Hein. Il faut deux, trois ans parfois pour y arriver.
Ça, c'est pratique.
Surtout quand on passe du A4 au A3, c'est compliqué. Il y a toute une manip. J'étais stagiaire moi, quand j'étais jeune.
Hit the chicken switch. Win the prize. Ain't worth the game. When every road leads back the way you came. Sometimes you know. Yeah, when it's time to quit. When in doubt, see the cow. Hit the chicken switch. The chicken.
ain't always what you need. Sometimes you know, oh, when it's time to quit. When in doubt, take the cowardly out, hit the chicken switch. Hey, 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 hey. Oh, oh, now, my, na, 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 baby.
Une femme vous glisse dans l'oreille un mot doux du genre ah, yeah. Ou qu'elle vous dit confiante,
goûte mes frites.
Eh bien, camarade masculin, il est temps de resserrer les rangs. Je n'irai pas dans le sens de Beaumarchais qui a dit
oh, femme, 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 créature faible et décevante.
Mais la femme n'est pas la propriété de l'homme, bien sûr.
Hello.
Mais c'est bien plutôt elle qui le possède, le façonne et l'anéantit.
Just you wait. Goodies.
La beauté, la grâce, l'intuition ne sauraient être l'apanage de la femme.
Goodies.
Mais il y a des réalités qui ne sont pas bonnes à dire.
Goodies.
Mesdames et messieurs, c'est la rubrique des meufs, enfin des gonzesses, des femmes quoi.
Goûte mes frites.
J'avoue que vous nous avez fait peur, parce que je me rappelais plus de ce vieux jingle, parce que c'est pas Paco qui l'a fait, c'est...
C'est quelqu'un, on a eu tellement, ça défile tellement
mais
les techniciens
si,
ici.
Il y a un petit qui est parti à Paris.
Jean,
ah, voilà, bah, vous avez bah, pas reconnu bah, la voix de Jean.
Bah, je sais pas, vous avez, je vous dis, taisez-vous, j'ai envie d'écouter le jingle et vous n'arrêtez pas, quoi.
Je disais absolument rien, vieux fou.
Cette espèce de logoré verbal.
Je disais absolument rien.
Qui vous caractérise.
Tout ça pour dire que oui. J'ai eu très peur et, en fait, non, ça va, vous avez pas passé l'affreux rubrique, l'affreux jingle sexe qui fait tant peur à Jean-Loup et nous avez passé un jingle respectable afin que nous puissions recevoir en toute quiétude Françoise, bonsoir.
Rebonsoir.
Oui, c'est voilà. Vrai.
Non, alors on va rappeler parce qu'il y a des gens qui prennent l'émission en cours. Si on vous reçoit
bonsoir.
Ce soir, c'est parce que, eh bien, on a repéré un article donc dans la presse qui parlait de votre association et de toute cette démarche historique autour de du féminisme comme en général, mais particulièrement à Rennes, qui était de montrer que, ben, certes, il s'est passé plein de choses au niveau de la capitale, au niveau national, mais il s'est également passé des choses chez nous et ce qu'on aimait bien c'était un petit peu et c'est pas un petit peu c'est tout à fait le côté recherche et puis mémoire, la mémoire justement de ce combat féministe et vous allez pouvoir un peu comme ça éclairer notre lanterne et nous dire bah nous rappeler un peu les fondamentaux de tout ça
et du féminisme parce que ça affiche la trouille à beaucoup de mecs ça, en fait le terme féministe souvent dans l'esprit de beaucoup de garçons c'est machiste. Mais à l'envers, est-ce que vous pourriez définir
qu'est-ce
c'est quoi
que vous
le
entendez
féminisme
par beaucoup?
Oh, je pense que bah après on peut toujours faire des lois, etc. Je crois que les mentalités sont plus longues à changer que faire des lois. Qu'est-ce que c'est que le féminisme? Juste c'est la femme qui est supérieure à l'homme.
Pas du enfin, tout. Voilà. Non, le féminisme c'est une grille de lecture de la vie, de l'actualité, des conditions de vie des êtres humains qui promeut l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est en ça que ça n'est pas l'inverse du machisme. Parce que le machisme, c'est de penser que les hommes sont supérieurs, alors en force, en intelligence, en tout ce qu'on veut, aux femmes. Alors que le féminisme, non. Le féminisme, c'est de dire les hommes et les femmes sont égaux en droit. Et donc, tout ce qui permet de faire avancer les droits des femmes fait aussi avancer les droits des hommes. Si on prend l'exemple de l'IVG, quoi qu'on en pense, hein, l'IVG a quand même permis de résoudre un certain nombre de situations qui étaient mortelles.
C'était bon une des premières causes de mortalité voilà. Chez les jeunes femmes dans les enfin voilà. Avant la dépénalisation.
Eh bien, ça a aussi été pour un certain nombre de jeunes hommes confrontés à une grossesse absolument non désirée à cette époque-là, aussi une forme de soulagement de se dire qu'il y avait quelque chose qui pouvait être fait avec leur copine, avec faut se rappeler hein, dans ces années-là ce que c'était.
Ah bah je suis un enfant de l'amour hein,
voilà.
Moi. Là,
et donc on a vu
au grand bonheur de mes parents là.
Vous en avez pas la tête.
Les recherches qui ont été faites justement par Lydie Poré et Patricia Godard donc et qui sont restituées dans le livre qui s'appelle Les femmes s'en vont en lutte, c'est de montrer qu'à Rennes notamment des jeunes vraiment mais des jeunes qui étaient étudiants en médecine ou pas et qui à l'époque étaient mineurs, faut se rappeler que c'était 21 ans la majorité.
Oui, c'est vrai qu'avant 74, on l'a complètement oublié ça. Ouais.
Ça. On prit le risque de se former, d'aller jusqu'à Grenoble et de se former et de pratiquer des IVG donc avec une méthode, la méthode Karman, pour résoudre des situations de grossesse non désirée. Parce qu'à cette époque-là, la contraception, on n'en parlait pas, il n'y avait pas le droit d'en parler, vous vous en rappelez aussi. Hein, donc tout ça, ça a duré quand même jusqu'aux années 75. Mmh. Alors aujourd'hui, ça paraît très loin, mais autour de cette table, nous sommes au moins trois à avoir connu ça. Et tant mieux que les plus jeunes n'aient pas connu. Mmh. Mais donc vous voyez, en ça, le féminisme n'est pas du tout ce que parfois on peut entendre, une revanche des femmes sur les hommes, ou bien une inversion de
Est-ce que c'est pas du tout. Ou c'est peut-être le terme « lutte » qui donne cette illusion.
Oui, mais c'est important parce que.
Ah, mais ça, je vous suis, mais. Non, mais dans l'esprit de beaucoup de gens. Enfin, beaucoup
si
de
vous
gens.
Si vous voulez, quand les ouvriers luttent pour un meilleur salaire, quand les gens luttent contre les guerres, enfin, voilà, on trouve pas que c'est péjoratif. Quand les femmes luttent pour leurs droits, elles ne luttent pas contre les hommes, elles luttent pour leurs droits. C'est complètement différent.
Est-ce que c'est pas le résultat justement de, moi je pense à ces caricatures où on présentait, vous savez, les suffragettes comme d'affreuses viragos ou des mégères.
Toujours.
Est-ce que c'est pas ça qui a justement créé dans l'inconscient, parce que ça y a été, la presse était tenue par les hommes et il y a plein de dessins de presse, etc. Et puis le combat pour le droit de vote, il a fallu quand même attendre 44, 45 pour lorsque sont tenues les premières élections, alors que même des pays comme la Turquie dès 1917 avaient accordé le droit de vote aux femmes. Et là, ça laisse un petit peu pantois quand on y réfléchit. La France a été toujours un pays un petit peu. Et donc justement, par rapport à ce que disait Jean-Loup, là, même si je suis pas tout à fait d'accord avec son concept de beaucoup, mais comment est-ce qu'on peut pas imaginer qu'il y ait aussi des conséquences de cette propagande, etc., anti-femmes, anti-lutte des femmes.
Je pense que beaucoup d'historiennes ou d'historiens ont montré que ça date même d'avant. C'est-à-dire que, par exemple, on a assisté au cours des siècles précédents par exemple, le fait que les sorcières aient été brûlées. Or, les sorcières, c'était des femmes qui avaient un certain savoir. Un certain savoir que les hommes ne supportaient pas qu'elles aient. Voilà, il y a eu comme ça dans l'histoire.
Hypatie.
Il y a une chanson de Pauline Julien que peut-être on écoutera à un moment donné, qui s'appelle Une sorcière comme les autres et qui raconte ça. C'est-à-dire qui dit aussi que, enfin, raconte pas ça, mais elle dit aussi que finalement, dès qu'une femme a un peu de savoir ou un petit peu de pouvoir, alors on la caricature, alors on la traite de sorcière, on la traite de monstre, voilà. Alors que pour un homme, on trouve ça tout à fait normal.
Est-ce que c'est pas lié non plus aussi à la philosophie et puis à la mentalité judéo-chrétienne? Parce que moi, je me rappelle d'un truc qui est, c'est Hypatie, c'est marrant, Hypatie, c'était la patronne de la bibliothèque d'Alexandrie, celle qui avait été reconstruite après l'incendie, quand Jules César avait conquis la ville. Eh bien, ils avaient reconstruit une autre bibliothèque, et juste quand le christianisme a été autorisé en Égypte, eh bien, Hypatie, on y a foutu le feu au milieu de ses livres. Et comment dirais-je, vous parliez du savoir, certaines femmes qui détenaient le savoir, pour les chrétiens de l'époque, c'était une païenne. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai toujours l'impression qu'il y a aussi, moi je me rappelle, parce qu'on parle beaucoup de comment la religion musulmane en ce qui concerne les droits des femmes, moi je me rappelle de ma mère qui devait mettre un voile, comment dirais-je, entre l'église,
un fichu, comme il disait.
Dans la rue, c'était quand même bien de pas trop s'exhiber. Le fichu, ça permettait quand même de vous faire ressembler vaguement à une fille sage, donc du coup on mettrait pas les cheveux libres, on utilisait la formule cheveux libres. On a quand même le poids de la religion chez nous quand même qui a contrecarrer l'égalité entre les hommes et les femmes.
Alors là, bon, moi, je vous donne ma théorie à moi.
Théorie,
mais bon, le fait même que dans l'histoire catholique, dans la Bible, on est une Vierge Marie, c'est quand même
bizarre.
Le mot est là, bizarre. Je vous le laisse. Un certain nombre comme ça de. Après, je pense qu'aussi loin qu'on remonte dans l'histoire. On nous dit que les femmes ont été victimes, ont été opprimées, Il y a aussi des exemples de civilisations. Alors, je peux pas vous les donner parce que voilà, c'est pas mon métier, je connais pas tout, mais je sais qu'il existe des endroits, il a existé des peuplades ou des manières de vivre.
C'est le matriarcat qui domine.
Pas forcément le matriarcat qui domine, mais en tout cas, il y avait une égalité. Je vois bien qu'on n'en sort pas, mais on va y arriver.
Il en a chié avec une génération de femmes.
Des droits des femmes et d'une place égale homme-femme, même s'il y a des différences. Hein. Il ne s'agit pas de se dire qu'un homme et une femme, c'est pareil. Il s'agit de se dire que leurs droits sont égaux. C'est ça l'important pour nous. C'est-à-dire qu'en disant que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes, on n'enlève rien aux hommes. Alors que les hommes, eux, en disant « Mais non, il n'est pas question que les femmes aient le droit de faire ci, le droit de faire ça », il nous enlève notre droit d'être autonome ou de pouvoir exister de manière pleine et entière.
Est-ce que toutes les femmes sont conscientes de ça et est-ce que les femmes elles-mêmes n'entreviennent pas cette situation? Je m'explique. Je me souviens d'avoir vu il y a quelques temps en fait un documentaire envoyé à un petit garçon hyperactif, des mamans derrière une classe 101, le gamin hyperactif, nanana, réaction des mamans, bah c'est un garçon, c'est normal, etc. Ils prennent exactement le même gamin qui maquille en fille avec une perruque, etc. Réaction surprenante des mères, c'est pas normal, elle est mal élevée, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que quelque part, de manière inconsciente, les femmes n'entretiennent pas aussi cette différence que la femme a aux petites filles, on donne une poupée, même si si on veut un garçon jouer avec une poupée, non, on prend un mécano.
Ce que je trouve qui est intéressant dans l'association Histoire de Féminisme à Rennes, c'est qu'il est montré par différentes manières que justement, il y a aussi des femmes qui ne sont pas prises par ces stéréotypes et par ces contraintes, on peut appeler ça stéréotype de genre, ou voilà, et qui, à un moment donné, parce qu'elles sont ouvrières à la SPLI et qu'elles n'en peuvent plus de leurs conditions de travail, ou parce que à Mammouth, pareil, elles sont déconsidérées par leur chef, ou bien parce qu'elles veulent pouvoir avoir des enfants quand elles le désirent, et pas seulement de manière complètement accidentelle et non voulu, se révolte et s'organise surtout pour lutter contre ces oppressions-là. Donc, je pense que il y a effectivement les stéréotypes dont vous parlez, il y a l'éducation, à Histoire du Féminisme à Rennes, il y a des interventions, par exemple, dans les milieux scolaires, pour venir parler un peu de l'histoire des hommes et des femmes. À Rennes, on a une figure qui est Clotilde Vautier, qui est une peintre au grand talent, qui est morte très jeune. Ça va être l'anniversaire subtil de sa mort en 2018, des suites d'une IVG clandestine, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas le droit. Et donc, elle est morte des suites d'une IVG non soignée, une septicémie, enfin voilà. Et donc, il y a des outils à Rennes, au moins, pour sensibiliser un peu les plus jeunes et les gens que ça intéresse et pour leur montrer aussi que quand on parle de droits des femmes ou de lutte des femmes, c'est pas seulement des mots comme ça juste pour contrecarrer les hommes ou pour prendre le pouvoir ou je ne sais quoi. C'est une réalité très concrète et très tangible. Et le travail d'histoire de mémoire dont vous parliez tout à l'heure d'histoire du féminisme à Rennes, c'est ça. C'est de dire dans cette ville ici, il n'y a pas qu'à Paris, il n'y a pas qu'à Londres, il n'y a pas dans cette ville ici, il y a des personnes, des femmes et aussi des hommes, mais des femmes qui à un moment donné ont contré ce qui se passait pour faire prévaloir leurs droits.
Mais ça me rappelle, on va se passer un petit disque. Après, vous parliez d'IVG aussi. La dernière femme qui a été exécutée en France, ce qu'on appelait les avorteuses. Il y a un très beau film dont je ne me souviens plus qui était l'actrice principale. C'est pendant l'occupation qui veut dépanner une copine et que du coup elle fait bien le boulot. Je ne me souviens plus du film. Ils vont le retrouver par le disque. Où on voit cette jeune femme en fait qui dépanne une copine et qui se retrouve dans un engrenage chez l'occupation, et souvent ce sont des femmes dont les maris sont prisonniers en Bauchy, etc. Et c'est elle qui, je crois, c'est la dernière femme qui a été condamnée à mort en 46-47 en France.
Pendant la guerre, je crois que c'est pendant la
guerre. C'est pendant la guerre. Ils vont nous retrouver ça. Tapez Isabelle Huppert, je pense que ça va être.
J'ai plus la date en tête, vous m'en excusez. Il y a eu le procès à Bobigny de Marie-Claire qui a été défendu donc par Gisèle Halimi et qui donc avait rompu avec c'était une jeune femme très jeune et qui a avorté et en fait son copain l'a dénoncé. Voilà, et donc il y a eu un procès alors qu'en fait elle avait été violée, donc elle avait porté plainte contre cet homme, ce jeune homme, pour viol, et lui, pour se venger, a dénoncé. Et donc, ça a été le procès, on appelle ça le procès de Bobigny, le procès de Marie-Claire, qui a permis que, publiquement, le procès, en fait, était au départ par rapport au viol, et c'est devenu le procès de l'IVG. Voilà, c'était un moment historique très important.
Et on va passer un petit disque, parce que l'IVG, il y a des choses à dire aussi. Simone Veil, qui se faisait insulter, parce qu'elle était juive aussi. Oui, c'est la juiverie internationale. Mais c'est
encore
dingue. Hein,
encore aujourd'hui, les mouvements anti-IVG harcèlent un certain nombre de militants et de militantes.
Parce que rien n'est définitif. C'est ça qui est intéressant dans votre travail, c'est de rappeler par vos écrits et vos ouvrages qu'effectivement rien n'est définitivement acquis. Il suffit de voir effectivement comment ça peut chasser par la porte, ça peut revenir par la fenêtre. Il faut qu'on s'écoute un petit.
Voilà, mix. C'est parti. Alors vous avez le.
Ouais. C'est l'invité qui nous l'a donné. C'est l'hymne des femmes.
Pardon, je croyais que c'était le titre du film que vous allez nous retrouver pendant le.
Non, parce que vous avez pas le temps. Bah non, après.
On passe le titre. Très beau film, il faut le rappeler. Très beau film.
On donne la réponse après. Ouais.
Voilà, c'est parti. Donc l'hymne des femmes.
Mais laissez-lui parler.
Mais oui.
Les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Nous fous, nous femmes esclaves, et prisons nos entraves, debout, debout, asservies, humiliées, les femmes. Acheté, vendu, violé. Dans toutes les maisons, les femmes hors du monde reléguées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Seules dans notre malheur, les femmes, l'une de l'autre ignorées. Les femmes et de nos sœurs séparées. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Le temps de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Connaissons notre force, les femmes, découvrons-nous des milliers. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Reconnaissons-nous, les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, on nous opprime, les femmes, ensemble, révoltons-nous. Levons-nous, femmes esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout. Levons-nous, femmes esclaves, et jouissons sans entrave. Debout, debout, debout.
Tout à l'instant, dans le monde du spectacle, un technicien.
Voilà, toujours avec les Grignoux, en compagnie de François. C'est vrai qu'on parlait beaucoup de généralités.
Et on n'a pas abordé.
Et on continuera de parler de généralités.
Ne vous inquiétez pas.
Attendez, je suis en train de noter des dizaines de choses.
Mais, ouais. Mais il faudrait quand même qu'on rappelle aussi.
Je me demande s'il ne faudrait pas qu'on vienne chaque semaine pendant tout un temps. En fait.
Oh, il y aurait sûrement matière. Vous pourrez
revenir. Je sens qu'il y a un petit besoin de formation.
Je pense que votre combat, malheureusement, il risque de durer encore un certain temps.
Oui, tout à fait.
Parce que rien n'est acquis. Mais j'aimerais bien, moi, quant à moi, qu'on revienne aussi à l'origine du fait de la raison pour laquelle vous êtes là. À savoir que si vous nous parlez de féminisme, c'est aussi parce que, alors je sais pas, vous allez nous le dire, soit vous avez été impliqué dans des combats féministes, soit vous avez décidé de vous pencher sur l'histoire du féminisme et de justement, vous allez pouvoir nous parler de l'action de votre association en général, qui est, si j'ai bien compris, maintenir vivante l'histoire des combats féministes, notamment à Rennes.
À Rennes.
Alors en fait, moi, le féminisme, j'ai rencontré très tôt et j'habitais pas à Rennes à ce moment-là. Donc j'ai eu la chance de vivre les énormes manifestations dans les années 75. Vous parliez de la loi Veil tout à l'heure en off, et donc de prendre conscience très vite, quoi, que bah oui, il fallait absolument que les femmes soient dans une dynamique de lutter pour leurs droits. Pour que leurs droits soient égaux à ceux des hommes. Il ne s'agit pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul, hein. C'est pas ça du tout. Voilà. Et puis, bon, voilà, je suis venue habiter à Rennes, et quand je suis venue habiter à Rennes, j'ai rencontré un certain nombre de personnes, femmes, qui étaient dans les combats féministes. Et puis, les deux d'entre elles, d'ailleurs, que je connaissais, donc Patricia et Lydie, ont donc, elles, entamé un cursus de recherche pour donc sur la question des luttes féministes à Rennes dans les années 65 à 85. Et d'ailleurs, il en est sorti un ouvrage, hein, un très beau livre qui parle de tout ce qui s'est passé à Rennes dans ces années-là. L'idée, c'était, comme je le disais tout à l'heure, un, tout ne s'est pas passé qu'à Paris. Et deux, c'est de montrer que les luttes d'aujourd'hui, quand on regarde dans les rétroviseurs, on les comprend mieux. Et c'est, on sait là d'où on vient. Donc c'est pas une association qui aujourd'hui lance elle-même des manifestations militantes, etc. Mais par contre, on est en soutien, hein, avec un certain nombre de manifestations qui peuvent se passer individuellement ou en tant qu'association quand il y a un rappel historique à faire. Par exemple, pour la journée contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, il y a eu une intervention avec un rappel sur mais d'où vient cette journée du 25 novembre. Quand on parle du 8 mars, par exemple, c'est important de savoir d'où vient cette journée. Et sur la place de Rennes, c'est intéressant parce qu'il y a encore aujourd'hui un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui sont vivants. Hein, l'idée, c'est que l'histoire, c'est pas forcément au Moyen-Âge. L'histoire, elle se fait aussi, là, elle s'est faite dans les 30 ou 40 dernières années sur des sujets très importants.
Ouais, surtout en ce qui concerne l'histoire féministe, effectivement, tous les gains sont très récents.
Pourquoi le 8 mars, en fait?
Alors, le 8 mars. Voilà, je savais que vous alliez me poser la question, donc j'ai refait mes petites recherches. Le 8 mars, ça a été créé en fait lors de la Conférence internationale des femmes socialistes en 1910 par Clara Zetkin, qui a proposé de créer une journée internationale des femmes. Et en fait, c'est à partir de 1917, avec les grosses manifestations ouvrières à Saint-Pétersbourg, où les ouvrières se battaient pour avoir du pain, faut quand même s'en rappeler, que cette journée a pris de l'ampleur. Et c'est Lénine, Vladimir lui-même, qui a décrété le 8 mars 1921 que ce serait le 8 mars, la journée internationale des femmes. Ça a été repris par l'ONU, cette idée-là, en 1977, et par le gouvernement français, dont en 1982. Voilà, il se trouve qu'à Rennes, la chance qu'on a, c'est que la municipalité, la ville de Rennes, ne fait pas une journée, mais s'implique, et tous les acteurs avec, dans toute une série d'événements,
hein,
et d'actions autour de cette question des droits des femmes.
Parce que justement, c'est un petit côté, je sais que les médias vont en parler un petit peu avant, et puis ils vont en parler le jour là, et puis ils vont dire ça se réduit à tiens, est-ce que vous amenez des croissants à votre chérie, et est-ce qu'il
n'y a pas... C'est pas la Saint-Valentin.
Ouais, je sais bien, mais parfois pour certains journalistes, ça se réduit à ça, un petit côté un peu folklorique. Tiens, aujourd'hui, et puis alors on va faire venir une asso, et puis voilà. Point. Comment est-ce que vous envisagez justement de rendre l'événement plus marquant et plus vivant du coup?
Alors cette année, alors d'une part, l'association, depuis plusieurs années, on organise régulièrement, alors deux ou trois fois par an suivant, des visites guidées du Rennes féministe. Hein, donc c'est on s'en va dans les rues de Rennes, on fait différentes stations à différents endroits qui nous permet de raconter ce qui s'est passé. Et donc à chaque fois il y a une 20 à 25 personnes qui viennent, et du coup ces gens-là en parlent à d'autres, donc il y a quelque chose qui circule autour de ça. Ensuite, il y a des personnes qui continuent à faire des recherches sur des associations qui se sont impliqués dans ces luttes-là dans les années 70-80, on organise des événements. Donc on en a organisé, là il y a un événement, je vous ai amené un petit papier, qui est donc dédié au parcours de Colette Cogné, qui est une écrivaine rennaise féministe, hein, qui est décédée l'année dernière. Hein, et donc on organise avec les Champs Libres un événement. Je vous ai parlé tout à l'heure de Clotilde Vautier, donc ça c'est pour 2018. L'ASPLI, les luttes ouvrières, ce sera aussi pour 2018. On a déjà fait des projections de diapos, mais on va faire un événement un petit peu plus conséquent. Donc vous voyez, on jalonne un petit peu l'année, à la force de nos moyens et de nos disponibilités, d'événements pour parler de ce qui s'est passé à Rennes au travers de figures locales, Et en se documentant et avec d'autres.
Et est-ce que vous allez au devant des femmes aussi, je sais pas, une question, allez un peu Paul Balèze, est-ce que vous allez dans les quartiers, comme on dit justement peut-être pour sensibiliser leurs certaines femmes. Alors, quand on sort, genre les populaires, le grand frère à côté.
Oui, mais je comprends bien votre propos. Individuellement, c'est autre chose, mais en tant qu'association, c'est pas l'objet de notre association. D'accord. Il y a d'autres associations, sur Rennes qui ont cet objet-là. Hein, dans leur, nous, c'est pas notre objet. Hein, ça nous empêche pas d'être solidaires ou de diffuser l'information. Mais c'est pas notre objet. Alors, notre objet, c'est plutôt de resituer la mémoire, de servir aussi de lieu de formation, d'aller dans les écoles, comme je l'ai dit, pour intervenir auprès de la jeunesse. Mais notre objet, c'est pas de militer aujourd'hui, comme vous le dites, par exemple, parce que
il y a d'autres associations qui sont en place, en fait.
Oui, il y a d'autres associations sur la ville de Rennes qui sont tout à fait. Qualifié pour ça, enfin.
Voilà. Il y a peut-être encore d'autres moyens d'agir, enfin en tout cas de rendre cette journée-là marquante. J'ai chopé un truc sur Internet, c'est le collectif des Glorieuses. Vous les connaissez ?
Alors rappelez-moi, parce que là,
alors les Glorieuses, alors je les connais pas moi les Glorieuses. Hein. En tout cas, les Glorieuses proposent que les femmes partent ce fameux 8 mars là, comment de leur travail à 16h34.
Ah oui, c'est un appel à la grève.
Ouais,
oui. Alors ça, oui.
Pourquoi 16h34? C'est tout simplement pour rappeler symboliquement que, eh bien, passer 16h34, si vous voulez, à travail égal, on n'a pas le salaire égal, et que finalement, bah, à 16h34, elles gagneront pas plus, quoi, même si elles restent jusqu'à 18h, si c'est la fin de leur boulot. Donc, du coup, elles partent à 16h34. Point.
Alors ça, c'est un mouvement qui existe à Rennes, hein. Il y a une manifestation le jour du 8 mars, qui est appelée notamment par le collectif féministe, Féminisme Rennes 2, je crois, et d'autres. Voilà, donc individuellement, on va y aller. Voilà.
Yes.
Hein, mais voilà.
Donc, de l'histoire et de l'action.
Voilà.
Avant de s'écouter un petit disque, allez, je vais vous poser une question. Est-ce que ça existe une journée des hommes ?
Alors, on peut penser que c'est quand même 365 par jour.
Vous n'avez pas
par
tort.
An. Voilà, après, dans la population homme, on va dire les choses comme ça, je reprends votre terme, il y a des personnes qui sont discriminées, hein, de par leur couleur ou aussi de par leurs orientations sexuelles. Donc voilà, il y a d'autres forces qui aujourd'hui essayent de lutter aussi contre ces inégalités-là. Hein, il y a la question de l'égalité homme-femme ou femme-homme, dans laquelle nous sommes fortement impliqués de par notre travail sur la mémoire, etc. Mais il y a d'autres types de discrimination, bien sûr, dont nous sommes solidaires.
On vous écoute un petit disque, mais avant, la réponse, le film, c'est...
Donc c'est une auditrice qui nous a appelé pour nous le dire.
Ah, attendez, avalez ce que vous mangez avant de parler dans le micro, quand même. C'est pas vrai. Poli pour l'auditeur, enfin allez-y.
Donc le titre du film c'était Une affaire de femme. Et effectivement, c'était avec Isabelle Huppert.
Et c'est en quelle année ?
1988.
Et c'est marrant parce que moi, c'est un film, pourtant je suis un garçon, etc., qui m'a énormément marqué, un film un petit peu... Enfin bref, qu'on peut sûrement télécharger de manière légale pour le revoir.
Vous regardez en streaming, c'est clair.
Et c'est vrai que cette pauvre nana, enfin bref, qui se retrouve dans un engrenage, dans un contexte, et qui se fait exécuter au bout du compte. Merde, j'ai dit.
Mais ça a pas changé votre façon de penser au final.
Bah je sais pas. Je sais que c'est un film que, même en tant que garçon,
en fait, finalement,
qui m'a marqué. Allez, un
ça n'a rien changé du tout.
Et après, moi, j'ai quelques questions à poser. Et...
après, on va aussi recevoir aussi. Il faut qu'on on appelle Guylaine au téléphone. Voilà. Donc, on va écouter un petit disque.
Ça tombe bien parce que le disque qu'on va écouter, c'est un disque, c'est l'hymne des femmes libres en espagnol. Hein, c'est un hymne qui a été composé en 1936, et il me semble bien que Guylaine parle parfaitement espagnol, donc c'est parfait. Voilà.
Et ben voilà,
et ça tombe bien, nous aussi, on va pouvoir continuer la discussion en espagnol.
Voilà, on est toujours sur l'antenne des Grignoux, l'heure tourne, il est déjà 21h15, on est toujours en compagnie de Françoise pour cette conversation passionnante autour du féminisme, de l'histoire du féminisme notamment, ah oui merci c'est mieux, de l'histoire du féminisme, et nous sommes maintenant au téléphone avec Guylaine qui, comment dirais-je, là vous êtes en train de me couper la chic mon bon pépère, on est en compagnie de Guylaine au téléphone qui fait partie de votre association, c'est bien ça Françoise?
Absolument, Guylaine est un membre... une membre très active de l'association, elle est trésorière et par ailleurs très engagée dans un certain nombre d'actions qu'on met en place.
D'accord. Excusez-moi, je suis en train d'expliquer son métier au technicien, je m'entends.
Il faudrait qu'on prenne une fille. Elle serait beaucoup plus efficace.
C'est trop fort pour vous, là.
Ah ouais, là, moi, je vais exploser en plein vol. Voilà. Merci.
C'est mieux, là?
Ah, c'est beaucoup mieux, merci.
Alors, on va voir si on entend Guylaine maintenant. Allô, allô?
Je vous entends.
Ouais, super.
Guylaine, super.
Ils sont pas très bons, mais on arrive quand même, on va peut-être quand même faire quelque chose d'eux. Alors, donc du coup, si on vous reçoit ce soir, c'est parce que vous faites, comme Françoise, partie de la même association Histoire du féminisme en Bretagne.
Oui, je fais partie de l'association Histoire du féminisme depuis 2012, depuis qu'elle existe.
Voilà. Alors, comment, on va vous poser un peu la même question qu'à Françoise. Comment vous êtes tombée justement dans la marmite du combat féministe?
Bah, j'ai l'impression que j'ai toujours été féministe, dans le sens où, par exemple, moi j'étais éduquée, donc mes parents étaient agriculteurs, mais j'ai toujours été éduquée dans le sens où il fallait avoir son autonomie financière, qu'il fallait apprendre un métier et que une femme ne devait pas attendre le prince charmant pour l'entretenir. Donc,
c'est voilà. Plutôt libéral, ça, c'est plutôt pas mal, ça, carrément. Pour, enfin, je dis, en termes d'éducation, on n'est pas...
Effectivement, je n'avais pas des parents de gauche, mais sur ce point-là, c'est vrai qu'ils m'ont poussé à faire des études. Et puis après, je suis rentrée comme caissière à Mammouth en 1973.
Mammouth
écrase les prix.
Ah, c'est dingue, ouais. C'est toute ma jeunesse.
Ouais, moi aussi, c'est le premier supermarché qu'il y avait à Saint-Brieuc.
Eh ouais, mais Mammouth écrase les prix, mais Mammouth écrase les employés aussi.
Eh oui, c'est ça.
Comme quoi, les choses n'ont pas beaucoup changé. Mammouth a disparu.
Déjà à cette époque-là, le Mammouth était une belle saloperie alors du coup.
Disons qu'on a été obligé de mener beaucoup de luttes. Hein, on a fait une grève en 75, donc qui a duré 3 semaines avec occupation, et puis en 77 et en 79. C'était plus sur les conditions de travail, hein, et puis donc l'embauche des temps partiels. Et, là aussi, les temps partiels, qui c'était? C'était des femmes, hein, donc c'était considéré comme salaire d'appoint. Certains même disaient, oui, mais c'est bien, parce que les femmes comme ça peuvent jongler entre leurs tâches ménagères. Et puis,
super.
Se faire un petit peu d'argent quand même, donc salaire d'appoint.
Enfin, les choses ont forcément changé. Beaucoup de femmes font un plein temps et font un deuxième plein temps quand elles rentrent à la maison, malheureusement.
Oui, et puis y compris dans les temps partiels. Hein. Dans les temps partiels, on sait qu'il y a 80% des temps partiels qui sont des femmes en règle générale. Hein. Donc c'est toujours effectivement ces emplois précaires sont, on va dire, réservés entre guillemets aux femmes.
Mais en quoi justement ce combat là que vous avez mené au sein de l'entreprise Mammouth a été emblématique justement de la lutte pour meilleure reconnaissance du droit des femmes, notamment syndicaux, au niveau des salaires et compagnie?
Ça a été emblématique dans le sens où c'était une majorité de femmes qui étaient employées à Mammouth. Et faire grève, bon, c'est déjà une chose, et occuper un centre commercial, c'est encore autre chose, parce que occuper, ça veut dire dormir la nuit dans le centre commercial, et c'est vrai que ça posait beaucoup de problèmes aux femmes à l'époque. À l'époque, je pense que maintenant, malheureusement, ça n'a pas beaucoup changé, mais donc de quitter le foyer la nuit, certains maris n'étaient pas d'accord, quoi. Encore en journée, que la femme fasse grève, ça allait, mais la nuit c'était pas possible. Et donc où on se retrouve, y compris avec la SPLI, donc la Société Parisienne de Lingerie Indémaillable, qui avait fait grève donc en 1978. Hein. Alors elles, ces femmes-là faisaient grève avec occupation pour un autre combat, puisque en mai 78, il y a eu un dépôt de bilan. Et donc, ça voulait dire que tout le personnel était licencié. Et donc, dès le 2 juin, donc le 31 mai 78, le personnel a appris qu'il y avait un dépôt de bilan. Et le 2 juin, il y a eu l'occupation qui a été votée. Et cette occupation a duré quand même 3 mois et demi.
Ah ouais.
Et là aussi, il y avait une majorité de femmes qui travaillaient. Et là aussi, les maris s'opposaient à ce que les femmes restent dormir. Le problème de la garde des enfants aussi, qui était un souci. Nous, à Mammouth, on n'a pas réussi à mettre de garderie pour les enfants en place, même si la section syndicale était tout à fait favorable à la mise en place de cette garderie. On n'a pas pu le faire. À la SPLI, ils ont réussi, si j'ai bien compris, ils ont réussi à mettre en place une garderie, ce qui a facilité quand même, donc, en journée, la participation des femmes, à cette occupation.
Mais quand vous parlez d'occupation, en fait, il y a une double pression chez les femmes. Il y a la pression, du patron, machin, bidule, le salaire, et il y a la pression du mari aussi. Ça doit pas être simple à l'époque.
Eh ben non, c'était pas simple, et même j'avais relu un témoignage d'une fille, et puis quand on a fait passer le film de la SPLI qui avait été fait pendant la grève en 78, c'était un témoignage d'une femme d'une jeune fille plus exactement, qui disait que par exemple le samedi soir, elle disait que à ses parents qu'elle allait en boîte au bal. Et en fait, elle venait occuper l'usine, qui à 4 heures du matin, elle rentrait chez elle en faisant semblant qu'elle était allée au bal. Donc, il y avait la pression des maris.
Des parents.
Des parents pour les plus jeunes, quoi. Et c'est vrai que au-delà de la perte de salaire, puisque c'était pour tout le monde, hein, que ce soit homme ou femme, il y a une perte de salaire quand on fait grève, mais l'occupation, ça entraîne d'autres contraintes pour les femmes.
Est-ce que comment le combat que vous avez mené, ça a été retranscrit, par exemple, dans les médias? Est-ce que les médias ont été compréhensifs ou alors un peu ignoré l'affaire? Ça s'est passé comment, les médias, puis les syndicats?
Ah, les syndicats si je parle de Mammouth, c'était la CFDT qui était implantée à l'époque. Enfin, j'étais déléguée au CFDT. Non, on avait beaucoup de soutien, hein, et même c'est vrai que la SPLI, c'est pareil, il y avait des comités de soutien, donc où il y avait des organisations politiques, des organisations syndicales, des associations de consommateurs qui faisait des galas pour populariser nos grèves et nos occupations, pour récolter un peu d'argent,
oui, des fonds,
hein, puisque donc il y avait des collectes d'argent qui étaient faites. Alors donc ça ne ramenait pas un salaire, c'est bien évident, mais ça nous aidait quand même à vivre. Il y avait, si ma mémoire est bonne, je crois qu'il y a les paysans travailleurs qui nous avaient apporté de la viande aussi. Enfin, il y a eu plein d'actions comme ça de soutien de la population rennaise. Hein, donc, comme je vous dis, donc que ce soit organisation politique ou syndicale. Et en ce qui concerne les médias, bah moi je me souviens que FR3 venait assez régulièrement donc faire des émissions sur notre grève.
Mmh. Mais aujourd'hui, 40 ans après, est-ce que ce genre d'action, vous pensez qu'elle serait encore possible? On pense que on imagine Carrefour, les femmes,
ouais, tout
qui
bloqué comme ça.
Voilà, est-ce que on pense que ça fait 40 ans quand même là, est-ce que vous pensez que les femmes seraient soumises aux mêmes pressions de la part du bonhomme? Ouais, bon, qui sait que comment on fait les frites, le...
Ben, je pense qu'effectivement, de la part des maris, alors là, des maris ou des parents, je pense qu'il y aurait effectivement un peu la même pression. Mmh. L'avantage que nous, on avait à l'époque, en 1906, on reprend la grève, les grèves mammouth dans les années 70, c'est que quand on faisait grève, nous, les caissières, eh ben, le magasin ne pouvait plus fonctionner, quoi, hein, puisqu'il n'y a plus de caisse, enfin, pour encaisser. Maintenant, vous avez des caisses où les clients passent eux-mêmes leurs marchandises, donc je suis envie de dire si...
Ouais, enfin, il faut quand même du personnel un peu pour surveiller l'affaire, quand même.
Oui, mais enfin, bon. Il en faut qu'une.
Ouais, il en faut qu'une, ouais. Alors... C'est marrant parce que, comme dit Jean-Loup, je suis un peu d'accord avec Jean-Loup, même tout à fait, je pense pas que les conditions se soient améliorées. Une majorité des membres du personnel de ces supermarchés là sont des femmes célibataires, bien souvent, parfois souvent même des
sans
mères
célibataires.
Des mères célibataires ou même qualifications. Oui. Maintenant, quelle qualification pour avant on tapait encore les chiffres, maintenant pouf, on passe sur un espèce de rayon, etc., etc. Comment se fait-il que est-ce que vous avez l'impression que le combat syndical, en tout cas le combat féministe, c'est un petit peu éteint,
essoufflé.
Je dirais pas que le combat féministe s'est éteint, mais on n'est plus à la même époque. Dans les années 70,
il y avait un contexte, c'est vrai.
Il y avait un contexte économique, politique, parce qu'au niveau économique, je dis pas qu'il y avait pas de chômage, mais enfin bon, il y avait un chômage quand même un peu moins important que maintenant. Au niveau politique et syndical, il y avait plein de luttes, hein. Donc là, je vous ai cité Mammouth et la SPLI, mais il y avait des luttes dans la chaussure à Fougères, et puis il y avait d'autres luttes aussi, sans parler des femmes. Il y avait le Joint français, il y avait plein de luttes dans les années 70. Donc il y avait tout un mouvement qui était porté. Et puis en ce qui concerne le féminisme, il y avait par exemple, nous, il y avait la commission femmes CFDT, hein, qui avait été créée en 1974, et donc on a pu faire quand même donc les revendications des femmes, hein, que ce soit par rapport au temps partiel, que ce soit à travail égal, salaire égal, enfin bon, plein de revendications concernant donc les femmes étaient soutenues par la commission femmes, enfin je dis la commission femmes CFDT parce que j'y étais. Il y avait les groupes femmes aussi qui existaient, qui donnaient toute une vie à toutes ces luttes.
Alors, j'ai une petite question à vous poser par rapport au salaire. On dit les femmes globalement gagnent moins bien que les hommes. Mais par contre, ce que j'ai pas bien compris, c'est comment c'est calculé. Est-ce que c'est une moyenne sur ce que gagne un homme en général et une moyenne sur ce que gagnent les femmes? Donc dans ce cas, c'est vrai que beaucoup de femmes ou la plupart des femmes, travaillent à temps partiel. Évidemment, ça casse cette différence de salaire. Ou est-ce que je sais pas moi, un caissier est mieux payé qu'une caissière?
Non, ça, un caissier n'est pas payé mieux qu'une caissière.
Enfin, pourquoi ces différences? Comment c'est calculé? En fait, c'est du global ou Françoise, oui, apparemment, vous voulez intervenir?
En fait, c'est beaucoup dans le privé, hein, que les salaires des hommes sont infiniment supérieurs à ceux des femmes. Hein, c'est dans que ce soit dans les banques, que ce soit dans les managers.
À qualification égale, c'est ça?
À qualification égale, je crois que c'est 24%. C'est un peu comme, c'est ce que vous, un Guylaine, c'est ça? Non?
Moi, 26%.
26%, oui. Et tout à l'heure, on parlait de la grève qui est lancée par un certain nombre d'associations, d'organisations, et ça le 8 mars.
Les Glorieuses.
Voilà, les Glorieuses notamment, mais il n'y a pas qu'elles. Justement, à cause de cette question-là, c'est-à-dire qu'à une heure donnée, eh ben, une femme, elle continue à travailler sans être payée, là où un homme, lui, continue à travailler en étant payé.
Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des lois en France.
Il y a la loi effectivement à travail égal, salaire égal,
mais l'oblige pas.
Ce n'est pas respecté.
Mais il n'y a pas de pénalisation surtout, c'est-à-dire que c'est
théorique, c'est un peu comme le droit de vote. Droit de vote est obligatoire, mais si on l'applique pas, on n'est pas puni.
C'est comme d'autres lois qui sont passées qui sont très intéressantes, mais comme il n'y a pas de sanctions ou elles sont tellement peu importantes que ça sert pas à grand chose. Pour l'instant, on en est là.
D'accord.
L'autre question, c'est
ce qui est important aussi, je pense, à dire, c'est que les femmes on ne leur donne pas la possibilité de prendre des responsabilités.
Absolument.
Dans l'entreprise. Mmh. Elles sont sous-payés parce que donc elles ont les travaux les plus déqualifiés.
On les cantonne dans des, il y a ça aussi.
Partiel. Mmh. Et les femmes ne peuvent pas être directeurs. Moi j'ai jamais vu il faudrait que je le vérifie. Enfin, personnellement, je ne l'ai pas vu. J'ai jamais vu une femme directrice de Mammouth. Enfin, je parle de Mammouth Rennes, naturellement. Mmh, mmh. Y compris les, où on voyait bien les différences aussi. C'est que, c'est vrai que, même s'il y a quelques hommes maintenant comme caissiers, mais on voyait les femmes qui étaient caissières et les chefs de rayon qui étaient que des hommes. Mmh. Hein, c'est le plafond de verre, on ne peut pas augmenter, enfin on ne peut pas monter dans la hiérarchie.
Est-ce que quand même malgré tout, à travers tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez connu, est-ce qu'il y a quand même malgré tout quand même des grandes conquêtes sociales qui ont marqué votre temps en ce qui concerne l'égalité des hommes et des femmes? Alors je sais pas, moi c'est vrai que moi je me rappelle, c'est vrai qu'on commence, on va dire qu'on est très très vieux, mais par exemple que les femmes aient le droit d'avoir un carnet de chèques, etc. Un compte en banque sans le bonhomme, c'est pas si vieux que ça.
Hein. Justement, droit de vote des femmes 44, c'est acquis. Le droit à la contraception, la pilule, c'est quelle année?
75, non?
Non, la pilule.
La pilule, ouais, c'est-à-dire le droit de...
67, la loi...
Neuwirth.
Mais en fait, les décrets d'application sont sortis beaucoup plus tard.
Et il n'y avait pas le droit de faire de la publicité ou de la propagande pour ça.
Donc en fait, on...
Mais ce qui paraît évident aujourd'hui, c'est hier. Deuxième question, les femmes mariées qui ne sont plus considérées comme mineures, c'est quelle année?
Alors là, bonne question.
Ah, c'est une bonne... Ah oui, je sais. Oui,
on dirait Lucien Bonheur au jeu des 1000 euros.
Je crois que c'est dans les années...
C'était une question bleue de monsieur Jean-Loup Grossou de Rennes.
Non, mais je crois que... il me semble que c'est dans les années 60 à vérifier, façon Tom est dessus. Mais avant, il n'y a pas si longtemps que ça, une femme mariée était considérée comme mineure. C'est-à-dire que si vous voulez un travail, autorisation du mari. Un carnet de chèque, autorisation du mari. Je veux partir en vacances en Espagne, autorisation du mari. Oui. Comme pour les mineurs aujourd'hui. Et ça, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai que tous ces droits, effectivement, enfin, vous l'avez rappelé dans l'émission, c'est vrai que le droit de vote a été très tardif et toutes ces lois, effectivement, ont été très très tardives en France. Que ce soit le divorce, que ce soit la garde des enfants, la garde alternée, enfin, il y a plein de trucs qui, c'est vraiment
70.
Assez récent, quoi.
Attendez, Tom.
1970, la fin des femmes considérées comme mineures.
1970.
Ouais.
J'ai revu ça. Le droit de travailler sans l'autorisation
du mari, ça doit être ça.
Il parle de considérer comme mineur.
Mais et c'est marrant, moi dans la petite tête, je voyais ça au début des années 60.
Considéré comme mineur, j'aurais vu ça avec le CNR.
Je me souviens de ma mère qui pouvait pas aller toute seule retirer de l'argent et qui avait demandé l'autorisation à mon père pour pouvoir travailler.
Mais c'est hier, quelque part.
D'où l'intérêt de l'association dont nous faisons partie, Guylaine et moi, c'est de rappeler que tout ça, c'est pas vieux du tout. On n'est pas au Moyen-Âge, on est une génération.
Mais là, j'aimerais revenir, moi, sur les conquêtes sociales parce qu'on parlait de Mammouth écrase les prix. En termes de, est-ce que la grève que vous avez mené à Mammouth, est-ce que ça a amené des améliorations? Est-ce que petit à petit, si vous avez continué dans cette carrière-là, est-ce que vous avez vu quand même une prise en compte des demandes propres à des demandes spécifiques aux femmes, par exemple?
Alors, On avait quand même obtenu des choses. Par exemple, le magasin fermait à 22h et il n'y avait pas de bus à 22h à l'époque. Ah. Et donc, on avait obtenu qu'il y ait un taxi collectif. On payait, je crois, 50 centimes de francs à l'époque le trajet. Et donc, le taxi nous amenait chez nous. Mmh. Donc, ça, c'était important. Ce qu'on avait obtenu aussi, c'est l'intervention du planning familial dans l'entreprise. Et donc, pendant un an ou deux, je ne sais plus, le personnel pouvait aller sur son temps de travail, enfin, on s'inscrivait, et pouvait aller sur son temps de travail rencontrer donc les animatrices du planning familial. Donc ça, ce sont des choses qu'on avait obtenues, quoi. Et puis toutes les grèves, parce que bon, il y a eu quand même beaucoup de grèves, c'était d'une part ça faisait prendre conscience à l'ensemble du personnel, mais en particulier les femmes, puisqu'on était plus nombreuses en tant que femmes, qu'on avait une force, qu'on était capable de faire quelque chose, quoi, enfin collectivement. Et ça a fait que quand le magasin Mammouth a été racheté par Carrefour en 1981, Carrefour a donné automatiquement la convention collective Carrefour à tous les employés, ce qui n'a pas été fait dans d'autres magasins qui ont été rachetés par Carrefour. Mais nous, on l'avait obtenu parce qu'ils savaient que on était revendicatifs.
Il fallait pas trop vous faire chier.
Voilà. Donc, ça, c'est un gain inestimable parce que la convention collective Carrefour, à l'époque, était nettement supérieure à celle de Mammouth.
D'accord.
Écoutez, on fait une petite pause musicale et puis on poursuit notre conversation.
D'accord.
À tout de suite.
À tout de suite.
Dans un corps vide, entrer mon âme, tout à coup, être une autre femme, et que Juliette nous rétine, en l'une ou l'autre s'enracine, et dire parmi les éminentes, celles qui me feraient frissonnante, parmi toutes celles qui surent s'ébattre, qui surent aimer, qui surent se battre, mes sœurs Sinées, mes Philippines, mes savantes et mes Bécassines. Julie, Juliette ou bien Justine, toutes mes rimes féminines, Clara Zetkin, Anaïs Nin, Garbeau dans la reine Christine, sur le céleste carousel, choisir entre ces demoiselles, Camille Claudel, Mademoiselle Chanel, ou l'enragée Louise Michel, vivre encore Colombe ou Rapace, écrire, chanter ou faire des passes, Margot Duras, Maria Callas, ou bien Kiki de Montparnasse, naître demain, renaître hier, en marche avant, en marche arrière, m'incarner dans ces divergences, ces beautés, ces intelligences, et jouir du bien, ne retrait pas, pour dans leur pas mettre mes pas. Musidora, la Pavlova, ou mon aïeul, la grande gueule Teresa, que j'en ai l'esprit ou l'aspect, ou bien même les deux, s'il vous plaît. Juliette Drouet, la signore, ou la grande Milanidée. Vos voiles d'or et en chantant, avec l'une d'elles me révoltant, Flora Tristan. En colère. Mettez-moi, je vous le demande, instrument dans la cour des grandes, to the island, Barbara Streisand, où cette bonne dame ne change sans. Placez-moi du côté du cœur, côté talent, côté bonheur, l'œil fuleur, quand il parcœur, où sainte Joséphine veille. Oui, tout de suite, les feux de la gloire, les feux de la rampe, et de l'histoire, la Youssonard, Sarah Bernard, ou la Teresa Simone de Beauvoir, une voix d'argent au fond d'un port, une plume d'acier ou un cœur d'or, la Solidor, Christian Rochefort, ou Marceline Desportes Valmore, les belles sans peur et sans marmaille, tout plus au fort de la mitraille, Sylvia Bataille. Brandissant l'espoir et la gouge, Olympe de Gouges, au salon rouge, et la vieille Germaine de Montrouge. La lignée des dominatrices, l'Élise, Madame Donia ou Miss Ancariotis, Boulatis, Angela Elbert et Davis. Le train du diable et ses diablesses, les vénéneuses et les tigresses. Lola Montes, Gina Manès, l'empoisonneuse Borgia Lucrèce. Enfin, je pourrais être sincère. Du coup, pour les belles arrangères, Yvette Kilmer, Claire Pécher, j'irai jusqu'à Anne Sinclair. Mais si tant de souhaits vous chagrinent, s'il est contraire à la doctrine de viser haut dans les karmas, alors faites dans l'anonymat, en attendant que tout bascule, que Satan ne me congratule, ou que les anges me fassent la fête. Permettez une ultime requête, faites-la renaître, votre frangine, en n'importe qui, en fille d'usine, en fille de rien ou de cuisine, en croate ou en maghrébine, en éponine, en clémentine, en malika malika ou marilyn. Et si votre astrale cuisine par hasard ne le détermine, j'accepterai par discipline de revenir en capotine, en lubertine, en gourgandine, en pitié même en Juliette Noureddin.
Voilà, nous sommes toujours sur l'antenne des Grignoux, nous sommes toujours en compagnie de Françoise et Guylaine, de l'association sur l'histoire du féminisme à Rennes, c'est bien ça, hein?
C'est ça.
Yes, je vois Françoise qui vous regarde, je dis, vous n'avez pas intérêt à me planter. Et donc du coup, moi j'avais envie de vous demander, Guylaine, puisque vous êtes encore avec nous au téléphone, qu'est-ce qui vous a donc amené à rejoindre cet asso, et puis quelle action vous menez, quel travail vous faites dans cet asso du coup?
Bah, c'est un peu comme a dit Françoise, hein, à savoir que c'est faire voir aux gens que les droits conquis, d'une part, peuvent être mis en cause à n'importe quel moment, mm-hmm. et puis faire connaître les luttes qui ont eu lieu à Rennes, que ce soit les luttes ou les personnes aussi, parce que il y a par exemple Colette Cogné, donc n'était pas énormément connue, même si elle a écrit des livres, il n'y a pas eu énormément de publicité sur ses écrits, et donc c'est mettre en lumière ses écrits. Donc Françoise a dit qu'on faisait une conférence donc la semaine prochaine au Champ Libre. Et puis il y a une autre femme, par exemple, enfin on a un projet de faire quelque chose sur cette femme qui a vécu à Rennes, c'est Louise Baudin. Donc
Louise Baudin, alors je vais peut-être vous épater, mais je crois que Louise Baudin a servi comme infirmière, comme tant d'autres d'ailleurs, parce qu'à Rennes il y a eu un hôpital qui a été installé d'ailleurs dans, je me demande si c'est pas dans le cloître de l'actuelle fac de Sciences Éco, un truc comme ça.
Ouais, ou à l'Hôtel Dieu. Enfin, son mari travaillait à l'Hôtel Dieu. Enfin, Colette Cogné, par exemple, a écrit un livre sur elle qui s'appelle La Bolchevique au bisou. Et donc, Louise Baudin a vécu... donc, elle était née à Paris, mais elle a vécu beaucoup à Rennes. Et c'était une femme aussi très, très engagée.
Une grande bourgeoise, en fait. Elle aurait pu faire autre chose que ça.
Effectivement, c'était une grande bourgeoise. Hein, c'est pour ça que Colette Cogné avait... intitulé son livre La Bolchevique, mais au bisou. Effectivement, c'était une grande bourgeoise, mais donc elle s'est emparée du combat des femmes. Elle a lutté pour le droit de vote déjà à l'époque. Enfin, il y a un certain nombre de luttes qu'elle a menées. Et donc, on voudrait mettre en lumière cette femme. Hein, c'est un de nos projets qui a lutté pour le droit des femmes.
Je vais donner la parole à Jean-Loup, mais je voulais rappeler, si je connais Louise Baudin, c'est pas parce que je suis plus malin que les autres, mais c'est j'ai regardé sur FR3 un excellent documentaire qui s'appelle L'histoire des femmes durant la guerre 14-18, et on voit dans plein d'images d'archives, et on voit justement le personnage de Louise Baudin, on voit Louise Weiss, etc. On voit plein de personnages de femmes, dont cette fameuse Louise Baudin, Jean-Loup.
Voilà, et parce que vous habitez rue Louise Baudin, c'est pour ça. Est-ce qu'il y a des rues Louise Baudin, au fait ?
Non, il y a une crèche qui s'appelle crèche. Louise Baudin. Ça aussi, c'est un souci. Enfin, la ville de Rennes, c'est pas la seule ville malheureuse, mais donc dans beaucoup de villes, il n'y a pas de nom de rue
Louise Baudin
aux femmes.
Vous avez vu les nouveaux quartiers qui commencent à s'élever, pleine de beau, etc. Pourquoi pas demander à ce qu'il y ait une rue, une place
C'est ce qu'on a fait, entre autres pour Colette Cogné. On a demandé qu'une rue et pas une impasse, hein, mais une rue soit porte son nom. Et donc Louise Baudin, il y a une crèche qui s'appelle Louise Baudin. Clotilde Vautier, c'est pareil. Donc il y a un collège qui s'appelle Clotilde Vautier, donc à Maurepas. Mais il n'y a pas de nom de rue à son nom. Donc ce sont des combats comme ça qu'on voudrait mener. Je sais qu'on a certaines personnes au niveau du conseil municipal sont d'accord avec nous, hein, pour dire qu'il faut qu'on mette des noms de rues dédiées à des femmes, quoi. Mm-hmm.
Françoise, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, je voulais dire que ça bouge un petit peu, c'est lent. Il y a par exemple eu une place Simone de Beauvoir, là où il y a eu la rénovation de la caserne MacMahon, un endroit un petit peu fréquenté, parce que c'est près du métro à l'Atoll France. Dans le nouveau quartier de la Courrouze, il y a plein de petites rues, mais c'est un peu comme à Beauregard, mais c'est des petites rues pas très fréquentées.
Voilà.
Et en fait, voilà ce que vient de dire Guylaine, c'est important, c'est que si on veut arriver à l'égalité homme-femme, ça veut dire qu'il faudrait aussi que le nom des femmes apparaissent dans des artères fréquentées.
Pas la place Sade, mais l'avenue.
Voilà. Oui, enfin, surtout qu'on a toujours un boulevard Alexis Carrel. Je me rappelle que chez les Grignoux, on avait reçu un comité de lutte contre le boulevard Alexis Carrel. Alexis Carrel, un affreux génieiste pro-nazi, mais sous prétexte qu'il est prix Nobel, il a toujours son boulevard à Rennes, alors qu'on n'a pas on pourrait mettre boulevard Louise Baudin à la place.
Une petite question aussi que je vais vous poser par rapport au féminisme. C'est vrai, le terme féminisme, je trouve que au droit des femmes.
Guylaine ne s'en remet pas, ce monsieur, du terme féministe. il est traumatisé pour...
Non, mais honnêtement,
il essaie de généraliser l'affaire. Vous avez vu, beaucoup d'hommes, une majorité.
Attendez, Roger.
Ou alors c'est parce qu'il y a femme dedans, on ne sait pas.
Non, mais attendez, Roger, je vous poserai la question qui tue juste avant la fin de l'émission. Mais en attendant, est-ce que la Bretagne n'est pas une terre favorable au féminisme, dans le sens où, alors je parle pas des terres, mais je parle des femmes qui habitaient sur la côte, femmes de marins la plupart du temps, dont je suis originaire, et le matriarcat est extrêmement fort par rapport à ça, les hommes n'étant pas là, les femmes, il faut bien qu'elles fassent tourner la boutique, etc.
Ils ont passé leur temps à attendre que leurs hommes rentrent du bateau, c'est sûr, elles tournaient la boutique.
Elles tenaient la bourse.
Est-ce que le terrain n'est pas plus favorable en Bretagne? Ça explique peut-être pourquoi les hommes, quand ils revenaient, ils buvaient aussi, peut-être.
Et c'est pour ça qu'il y a plus de suicides en Bretagne.
C'est toujours la faute des femmes, de toute façon, c'est connu. Pauvres hommes.
Et c'est vrai, moi, j'ai vécu plutôt dans un milieu matriarcal, on va dire. Mon grand-père, il fait les doux, etc. Y a-t-il pas des régions, des endroits, Bretagne ou en France, où le terrain est plus favorable?
Je dirais pas ça, moi, mais c'est vrai que par le métier, c'est vrai que quand les marins étaient partis en mer, il fallait bien que la boutique tourne. Donc c'est vrai que les femmes pouvaient prendre un certain pouvoir. Mais bon, enfin, je suis pas connaisseuse de ce sujet-là. Hein. Mais je sais pas si quand les hommes revenaient, si.
Ce que je crois aussi, c'est que je comprends bien ce que vous dites quand vous parlez de votre grand-père qui peut-être filait doux. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a dans des relations de couple, parfois il y a des femmes qui sont peut-être plus comme ça extérieurement autoritaires. Voilà. Mais nous, notre propos, c'est pas forcément ça. C'est de.
C'est pas de régler les rapports conjugaux.
C'est juste de dire s'il y a des droits égaux. Nous, ce qu'on veut, c'est que les droits soient égaux. C'est-à-dire que votre grand-père, s'il avait envie de divorcer, il pouvait. Pendant encore, il n'y a pas si longtemps, une femme qui voulait divorcer.
Il n'avait pas le droit.
Non, mais.
Avec ma grand-mère, elle aurait tué.
Non, mais il n'avait pas le droit à l'intérieur de sa famille, on se comprend. Mais socialement, il pouvait le faire. Une femme divorcée, ça a longtemps été une honte, et voilà. Et c'est comme ça pour beaucoup d'endroits. Donc c'est vrai que sur le terrain privé, bon, voilà, je vois bien votre sourire, on peut en discuter. Mmh. Il y a effectivement des hommes qui peuvent se dire, entre guillemets, écrasés dans leur couple. Mais il me semble, Guylaine, que nous, notre propos, c'est l'égalité des droits sociaux, plus largement que à l'intérieur du couple, quoi.
Oui.
C'est pas la relation.
Je parle pas de couple, je parle de région.
Il faut signaler quand même qu'une femme sur trois décède sous les
coups de son conjoint.
Mmh. Hein. Donc, on ne veut pas régler, effectivement, c'est pas notre propos de régler les problèmes à l'intérieur des couples. Hein. Mmh. Nous, ce qu'on veut, c'est l'égalité des droits hommes et femmes. Mais il y a certaines choses quand même qu'on dénonce. Hein. C'est vrai que les violences faites aux femmes, donc dans le cadre conjugal, par exemple, oui, on le dénonce.
Mais est-ce que plutôt que, je pense que la question de Jean-Loup était quand même intéressante, savoir est-ce qu'il y a des lieux plus propices à l'émancipation des femmes, pourquoi pas. Est-ce que c'est pas plutôt à ce moment-là, à défaut de lieux, plutôt des époques. C'est-à-dire, on parle beaucoup. Alors nous, en histoire, on a appris que la guerre 14-18, les femmes ont dû travailler. Après, elles n'ont pas forcément tout accepté de revenir à la maison, des couples se sont déchirés, etc. Est-ce que c'est pas plutôt des époques qui font, ou parfois des périodes de crise justement, qui font que la condition des femmes parfois peut avancer? Enfin, je sais pas, une question que je pose à Guylaine ou à François, je sais pas.
Ouais, enfin moi je pense qu'effectivement pendant la guerre 14-18, donc les femmes ont été obligées de travailler, et c'est vrai que je ne pense pas, enfin je suis pas non plus spécialiste de ce truc-là, mais je pense pas qu'elles aient accepté de gaieté de cœur de rentrer à la maison, parce que c'est vrai que aller travailler dans une usine, même si ont des conditions de travail difficiles, c'est aussi rencontrer d'autres personnes, parce que le rester à la maison et s'occuper des enfants, au-delà du problème problème donc financier, c'est aussi rester dans un cloîtré, ne pas isolé, ne pas avoir de
contact,
de vie sociale, quoi.
Et aujourd'hui, il y a Facebook. Ça doit tout changer, non?
Oui, ça, il y a Facebook, ouais.
Eh bien, écoutez, on peut peut-être effectivement s'écouter un petit dix. Il nous reste presque 10 minutes. On s'écoute un petit dix et puis on termine ensemble. Je ne sais pas, est-ce que vous souhaitez rester avec nous ou on vous libère?
Comme
vous le souhaitez. Puis comme ça, si on a une question à vous poser, ben, si vous êtes en direct, c'est plus facile. Alors, on s'écoute un dernier petit dix, encore de la programmation. Vous avez noté que c'est pas la programmation habituelle au Grignoux, programmation qui nous est proposée par Françoise. On va s'écouter quoi maintenant? Françoise et Guylaine.
Programmation faite en concertation. Alors là, on va écouter, pas de souci. On va écouter Pauline Julien, qui est une chanteuse québécoise qui aujourd'hui est décédée et qui chante Une sorcière comme les autres. Une chanson qui a été reprise ensuite par Anne Sylvestre et qui dit que les femmes ont beaucoup de choses en commun entre elles, et ce sont, qu'elles soient puissantes ou qu'elles soient pauvres, elles sont finalement des sorcières comme les autres, comme celles qu'on a brûlées, comme je le disais au début de l'émission, il y a très longtemps. Et on est toutes des sorcières.
Ouais.
C'est parti.
S'il vous plaît, soyez comme le tuvet. Soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant. Je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous aimant. moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux. Mais c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. C'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. Il vous faut être comme le ruisseau, comme le clair de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai, je vous prie, ne m'inventez pas. Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimée servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimée putain et couverte de satin. Vous m'avez fait de statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte. Que moi, c'est elle ou moi, celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou qui se bat, c'est Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton, et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts, celle qui danse. Fille d'asphalte ou fille fleur, et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, soyez comme je vous ai. Vous ai rêvé depuis longtemps, libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi. Apprenez-moi, n'ayez pas peur. Pour moi, je vous sais par cœur. J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant. J'étais la bûche et le feu, l'incendie aussi je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière. J'étais le sol sous vos pas, et je ne savais pas. Mais un jour, la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompt, on découvre des richesses inconnues. La mer à son tour divague de violence inemployée. Me voilà comme une vague, je ne serai pas noyée. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou bien l'enfant, celle qui cède ou se défend. C'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend, et c'est c'est la moche ou bien la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Il nous reste quelques minutes, on est toujours en compagnie de Françoise et Guylaine
par téléphone, donc presque plus que le temps de vous dire au revoir. Par contre, vous vouliez, Françoise et Guylaine, quand même nous rappeler l'événement le 8 mars.
Alors, Guylaine, tu veux parler de Colette Cognier?
Non, vas-y.
Non, j'y vais.
Non, je savais pas. Ah, vous allez donc, pas vous disputer, hein.
Pas du tout, on se dispute pas, on se partage le travail. Donc le 8 mars, en fait, on co-organise avec les Champs Libres, hein, Guylaine en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais une conférence dédiée à Colette Cognier et avec une lecture d'extrait de ses œuvres par une comédienne donc qui s'appelle Camille Cardellian et des extraits qui sont choisis par des militantes d'Histoire du féminisme à Rennes. Et il y aura un débat à partir de ces extraits-là. En effet, comme l'a dit Guylaine, le parcours de Colette Cognier en tant qu'écrivaine n'a pas été tellement valorisé. C'est une injustice et donc on a à cœur de réparer un petit peu ce manque. Donc la conférence, elle a lieu le mercredi 8 mars à 18h30 à la salle de conférence des Champs Libres et c'est gratuit. Par contre, il vaut mieux réserver hein, donc au Champs Libres, donc au 02 23 40 66 00.
On trouvera tous les contacts sur le blog, il nous reste même pas une minute trente.
Voilà, donc s'il reste une minute trente, j'en profite vite, fait bien
oui,
fait.
Oui, allez,
on organise aussi avec Guylaine justement et moi-même, donc nous ferons une visite guidée du Rennes féministe des années 70. Qui aura pour particularité d'être en partenariat avec l'URAPEDA, puisqu'elle sera traduite en langue des signes. Donc c'est une visite en priorité destinée aux personnes malentendantes. Parce que ce sont des personnes qui, du coup, ont peu accès à un certain nombre d'informations de ce type, mais qui est aussi ouverte aux personnes aux personnes entendantes, si je puis dire, sachant que c'est limité à 20 personnes. Donc là, pour s'inscrire, c'est sur le site de l'Histoire du féminisme à Rennes, sur gmail.com, donc je sais que vous allez donner des coordonnées.
Voilà,
j'ai pas été trop long.
Non, très c'est bien. Très bien. Écoute, voilà. On vous remercie, Guylaine.
J'ai juste une question.
On vous remercie, Françoise, et puis peut-être que Jean-Louis une dernière question. Oui, pourquoi il n'y a pas de filles chez les Grignons?
Oui, mais je sais qu'il faut qu'on coupe et qu'on n'aura pas la réponse. Voilà. Tout simplement. Voilà.
Eh ben, vous le savez, vous n'aurez pas la réponse.
On saura peut-être un jour pourquoi il n'y a pas de filles chez les Grignoux. Et je sais que les filles sont capables de faire la technique aussi bien que les garçons.
Je pense. Au revoir à toutes et tous.
Merci, on vous remercie. Guylaine. Au revoir.
Salut,
au revoir.
Guylaine.
Au revoir, Françoise.
Et on nous dit salut et à la semaine prochaine. On laisse la place.
Au revoir et merci à Tom, merci à Growitch, merci à Jean-Loup, merci à Roger. Merci les gars.
Beaucoup.